Nous sommes une sorte de contradiction interne dans la société. Deux hommes et deux femmes, au contraire, ça peut être l'égalité. À condition, bien sûr, qu'ils ne se mettent pas à singer le couple hétéro. Le couple hétéroflic, dans notre vocabulaire.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Queer Stories, le podcast qui donne la voix aux personnes LGBTQIA+.
Nous accueillons aujourd'hui Aloé Lebras, militante engagée dans les luttes queer sur Saint-Étienne.
Bienvenue et merci de ta présence aujourd'hui. Pourrais-tu te présenter pour nos auditeurs?
Ouais, je m'appelle Aloé, je suis coordinatrice dans une association Saint-Étienne qui s'appelle l'Assaut de Ouf, qui gère un local qui s'appelle La Brouette, au 4 rue du Théâtre. C'est vers Peuple pour les gens qui connaissent pas trop. Voilà, c'est une asso qui fait de l'éducation populaire autour des questions de la pratique artistique et de la pratique créative de manière plus générale, et qui fait aussi tout un tas de choses diverses et variées, notamment qui parle un peu de la question des discriminations de manière générale, et via mon arrivée dans l'asso aussi plus spécifiquement des discriminations envers les personnes LGBT.
Pourrais-tu maintenant nous parler de ton parcours personnel et ton engagement pour les luttes queer?
Yes. Mon parcours perso, pour faire rapide, je suis né à Lyon, mais très vite, quand j'avais 7-8 ans, j'ai déménagé à Monistrol-sur-Loire, dans la Haute-Loire profonde. Et autant te dire que là-bas, la question des LGBT-phobies est bien présente, et que j'ai eu affaire à tout ça pendant toute mon enfance. Voilà, je suis arrivé sur Saint-Té il y a une dizaine d'années maintenant, et au début je m'intéressais pas trop spécifiquement aux questions LGBT, enfin des personnes LGBT, juste parce que j'étais jeune et que je savais pas trop que c'était possible de s'organiser collectivement pour faire des choses. Et après 2 ans à Saint-Té, j'ai découvert une association qui s'appelle l'Association des mineurs, et ça a été la découverte d'un nouveau monde pour moi. Parce que je me suis rendu compte que c'était possible d'être avec des gens chouettes qui pensaient des trucs un peu similaires à ce que je pensais de moi. Et qu'on pouvait s'organiser ensemble pour faire des trucs cool. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu associatif LGBT. Après j'ai déménagé pendant 2 ans à Clermont pour mes études. Et là-bas pareil, je me suis engagé dans une asso... qui s'appelle Utopie. Au sein de cet asso-là, il y avait un collectif qui s'appelait le collectif Femmes de Mars, qui était un collectif féministe intersectionnel. Et j'ai rejoint ce collectif pour ouvrir ce collectif aux questions queer notamment. Voilà. Ensuite, mon parcours a été semé d'embûches, on va dire. Mais je suis revenu sur Saint-Té et je me suis re-engagé de nouveau auprès des mineurs. Et puis avec le temps, j'étais pas forcément foncièrement entièrement d'accord avec la façon de faire des mineurs. Ils ont leur façon de faire qui leur est propre et c'est très chouette. Hein. Mais moi j'étais pas forcément foncièrement d'accord avec tout ça et du coup j'ai décidé de créer ma propre asso dans l'idée de monter un café associatif LGBT à Saint-Étienne qui s'appelait les Galapia Brillants, pardon. Voilà, et après, les Galapia Brillants, c'est toujours en cours de construction, on a décidé de prendre notre temps et de pas forcément chercher à aller trop vite. Donc là, ça fait 3-4 ans que c'est dans les petits papiers, on va dire, et qu'un jour, peut-être, ça verra le jour. Voilà, et en attendant, entre-temps, moi, j'ai... m'intéresse énormément au drag dans la vie et du coup j'ai décidé avec mon coloc et une amie de créer un collectif drag à Saint-Étienne pour réintroduire le drag à Saint-Étienne parce que le drag a existé à Saint-Étienne. On n'a pas créé le drag à Saint-Étienne mais il avait un peu disparu, il n'y avait plus beaucoup de personnes qui en faisaient et le peu de personnes qui en faisaient n'étaient pas forcément médiatisées, visibilisées. Et faisait pas forcément de show, ou enfin il se passait pas grand chose au niveau de la communauté drag à Saint-Étienne quand on a lancé ce projet-là. Et du coup on a lancé ce projet-là dans l'idée de recréer une scène drag à Saint-Étienne. Et voilà, et maintenant ça fait bientôt 2 ans, ça fait 2 ans depuis mars que cet asso existe. Moi, entre-temps, je l'ai quitté.
Aussi pour des raisons plutôt politiques, on va dire, de leur façon de faire et la tournure que prenait le collectif me correspondait plus vraiment et j'ai préféré m'en aller et laisser la place plutôt que jouer aux vieilles connes.
Pour en revenir au drag, quel rôle a-t-il joué dans ton engagement ?
Je dirais pas que le drag a joué un rôle dans mon engagement, mais plutôt que mon engagement a joué un rôle dans mon drag. Dans le sens où le drag, c'est quand même une plateforme d'expression. Quand t'es sur scène, tu peux faire passer des messages. Enfin, je suis pas devenu militant parce que je faisais du drag, c'est parce que j'étais militant que j'ai voulu faire du drag pour pouvoir faire passer des messages et exprimer des choses.
D'accord, et pour en revenir justement avec ton collectif drag, quel type d'action avez-vous mené outre les performances ?
Alors moi, à titre perso, comme je te l'ai dit, je travaille dans une association d'éducation populaire et du coup, moi, je suis à fond dans l'éducation populaire et c'est un peu ce qui me motive dans la vie, on va dire. Et du coup, on a mené pas mal d'ateliers d'éducation populaire autour de la question du drag, mais en fait comme un prétexte pour parler des questions de genre, de transidentité, de LGBTphobie, etc., etc. Et du coup, ça prenait la forme d'ateliers, plutôt d'ateliers de maquillage, où on apprenait aux gens à se maquiller en drag. Et en fait, c'était un prétexte juste pour discuter avec les gens et voir un peu... Faut pas se leurrer, la plupart des gens qui participaient à nos ateliers, c'était des gens qui étaient queer, qui connaissaient déjà, et du coup, c'était plus un prétexte pour parler de leur quotidien, de qu'est-ce qu'ils vivent, comment ils le vivent, comment ils perçoivent les choses, et d'essayer aussi de leur apporter d'autres visions. Je pense notamment, on a fait un atelier drag avec la MRJC, le mouvement régional des jeunesses chrétiennes, qui a fait il y a un an de ça, un rassemblement de réseau pas très loin d'ici, vers Saint-Étienne, et qui nous a invités pour faire un atelier, et on a fait cet atelier. Et moi j'étais à fond là-dedans, mais mes collègues de Vermine étaient un peu moins chauds, parce que les jeunesses chrétiennes ça fait peur, et qu'ils savaient pas trop dans quoi ils s'engageaient, et en fait on a décidé de quand même y aller, et ça a été hyper chouette parce que du coup c'était que des jeunes concernés qui sont venus participer à cet atelier et qui nous ont dit mais merci en fait, enfin, ça fait des années qu'on se bat pour qu'il y ait des choses pour nous dans ce mouvement et que ça n'arrive pas, et là c'est la première année, et le fait que vous veniez, que vous ayez dit oui et que vous n'ayez pas refusé de venir, enfin merci pour ça quoi. Et ça a été des temps d'échange vraiment vraiment hyper touchants et qui redonne un peu d'espoir dans la lutte, on va dire.
Et quel message as-tu à faire passer pour ces jeunes, justement, qui souhaitent s'engager pour la lutte ?
Je pense que pour les jeunes qui souhaitent s'engager dans la lutte, en fait, je vais dire un truc, alors que je suis la première à avoir créé plein d'assos, mais parce que moi, c'est mon dada de créer des assos, j'adore ça. Mais ces derniers temps, on a ce truc-là de... Il y a de plus en plus d'assos qui apparaissent et qui se créent. Et à la fois c'est chouette parce que ça permet d'avoir une diversité qui permet d'avoir le choix aussi d'aller vers des associations qui nous ressemblent, mais en même temps faut faire attention parce que des fois on veut créer des choses qui existent déjà et juste faire attention à ça aussi, attention aux baby militants qui pensent connaître le monde et connaître comment les choses fonctionnent et qui en vrai le savent pas, enfin personne ne le sait, moi-même je ne sais pas comment les choses fonctionnent, je fais les choses par conviction et parce que j'y crois, mais jamais je me permettrai de penser mieux que les autres quoi. Enfin, ma pensée c'est ma pensée et s'il y a des gens qui me rejoignent c'est chouette, s'il y a des gens qui ne me rejoignent pas c'est pas grave.
Et du coup avec toute cette expérience, est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes qui voudraient s'impliquer ou créer même des assos ?
Allez voir les assos qui existent déjà, parlez avec eux, discutez avec eux. Si vous vous rendez compte que dans tout ce qui existe déjà, il n'y a rien qui vous correspond, créez votre asso et lancez-vous. Mais faites-vous accompagner pour créer votre asso, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui créent des assos sans être accompagnés, qui ne savent pas comment
on crée une association, comment fonctionne une association, comment on pérennise une association, et que du coup il y a beaucoup trop de projets qui voient le jour et qui au bout de quelques mois, années, meurent et cessent de vivre. Enfin, cessent de vivre, c'est une façon de dire, mais bref. Mais du coup, oui, si vous voulez lancer votre projet, il n'y a pas de souci, lancez votre projet, faites-le, mais juste faites-vous accompagner, surtout si vous ne savez pas comment ça fonctionne.
D'accord, et pourquoi s'engager pour les luttes LGBTQIA+ ? Quelles sont les façons de s'engager dans tes diverses expériences ? Et comment se traduit le militantisme quotidiennement sur le terrain ?
Bah, le militantisme, il peut prendre plein de formes, en vrai. Je pense que la forme la plus obvious, on va dire, c'est le fait de s'organiser collectivement via des associations, via des collectifs, via plein de structures qui existent. Mais il y a aussi des façons de faire qui sont plus individuelles. Je sais que moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ma façon de faire, elle est beaucoup plus individuelle parce que justement, j'ai fait un petit burn-out des collectifs LGBT. Et du coup, aujourd'hui, moi, juste, je m'arrange pour faire en sorte que dans mon quotidien, les endroits où je vais, les endroits que je côtoie de façon régulière, ils soient juste plus ouverts pour les personnes LGBT et les personnes queer. Ça passe par de la pédagogie, de l'éducation, qui, pour moi, n'est pas un problème parce que je suis à fond dans l'éducation populaire, mais qui, pour certaines personnes, peut être un problème. Il y a des personnes qui en ont marre de faire de la pédagogie et de l'éducation, et ça se comprend. Mais du coup, bah, je sais que moi, qui en ai pas marre et qui, voire même, aime plutôt ça, bah, je m'engage dans mon quotidien, justement, dans ma vie de tous les jours, à faire de la pédagogie et de l'éducation auprès des gens que je rencontre, à ne pas laisser passer des remarques sexistes, homophobes, transphobes, même sous travers d'une blague, sous couvert d'une blague, de leur dire « bah en fait, c'est pas très drôle, et voilà pourquoi c'est pas très drôle, parce qu'en fait, certes, pour toi, c'est une blague, mais à côté de ça, il y a des gens qui se suicident parce qu'ils sont trans. Et du coup, c'est important d'arrêter de faire ça, quoi.
Merci. On retrouve aujourd'hui beaucoup de manifestations qui sont organisées sur le sujet de la transidentité, de la transphobie. Il y a notamment des livres qui sont publiés, qui sont considérés comme transphobes, qui ont beaucoup de mise en avant. Comment on milite sur ces questions d'actualité? Comment on veille dessus? Quels sont les engagements possibles sur ces questions?
Comment on veille? Bah, c'est beaucoup par l'organisation collective, justement. Il y a des appels à manifestation dans l'entièreté de la France, je pense notamment au 5 mai, où il y a eu un rassemblement là, pour la journée internationale de lutte contre les discriminations LGBT. Non, 1, 2, 3. La journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, pardon, le 17 mai. Donc voilà, il y a des rassemblements, on s'organise collectivement pour justement discuter. Je ne saurais pas vous donner de réponse à comment on fait ça en tant que moi individuellement, parce que je pense pas avoir cette réponse là, mais en tout cas on s'organise collectivement pour essayer de trouver des réponses à tout ça, justement.
Aujourd'hui on est confronté à des phénomènes de discrimination, de haine, avec notamment les réseaux sociaux, avec des propos tenus par des politiques, des personnes publiques. Lorsqu'on est investi dans des associations et collectifs, on est porte-parole, il faut alerter les pouvoirs publics. Comment on fait?
Comment on fait? Il y a plusieurs façons de faire, passer justement par les réseaux sociaux, en signalant les comptes qui veillent de la haine, en signalant auprès des... Je pense notamment pour le fameux livre de Dora Mouto et Marguerite Stern, qui est un ramassis de transphobie, qui a été placardé par des affiches, je sais plus par quelle compagnie, mais bref, c'est pas très important, qui a été placardé dans tout Paris, dans tout Lyon, tout Marseille, et plein d'autres grandes villes. Et du coup, pour le coup, il y a des militants qui sont allés dénoncer ça, qui sont allés expliquer aux distributeurs que c'était un livre qui était un ramassis de transphobie et qui n'était pas OK. Et depuis, les affiches ont été enlevées. Et la pub médiatique, elle se fait autrement, parce que du coup, ça a déclenché un scandale qui leur permet d'être invités sur tous les plateaux et de parler de leur livre sur tous les plateaux. Mais au moins, les affiches ne sont pas placardées dans la rue.
quel est ton point de vue concernant les critiques sur la visibilité et la représentation des personnes transgenres ? La représentation critiquée des personnes transgenres dans les émissions télévisées, par exemple comme l'Eurovision, que constates-tu ?
Il y a encore énormément de travail à faire, mais il y a eu beaucoup de progrès là-dessus quand même. On voit de plus en plus de visibilisation des personnes queer dans les médias, tous médias confondus, et c'est hyper important. Et ça fait qu'aujourd'hui, des jeunes LGBT, ils grandissent en se disant qu'ils ont le droit d'être ce qu'ils sont, et que du coup, il y a un peu moins de souffrance chez eux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus du tout, et il y a encore des jeunes, malheureusement, qui sont harcelés, qui sont tapés à l'école, qui finissent par se suicider, et c'est très triste. Mais je pense que vraiment la question de la visibilisation des personnes queer dans les médias, ça permet de diminuer un peu ces chiffres-là.
D'accord, merci beaucoup Aloé pour cet échange. Pour finir, tu nous as parlé du coup de ton association. Est-ce que les gens peuvent s'y retrouver là-bas pour parler, discuter de tous ces sujets ?
Indirectement, oui, dans le sens où c'est pas ce qu'on fait directement, enfin, c'est pas notre activité première à la brouette de faire de la lutte contre les discriminations, mais bien évidemment que toute personne queer est la bienvenue et sera bien accueillie, et que si elle éprouve le moindre problème dans nos locaux, qu'elle n'hésite pas à nous envoyer un message sur Instagram et que nous, derrière, on fera en sorte que ça n'arrive plus. Mais du coup, oui, elle peut venir. Nous, on est ouvert tous les vendredis de 16h à 20h en mode porte ouverte, after work, porte ouverte, ouais, quelque chose comme ça. On sait pas trop, on sait pas encore trop décidé sur le nom de ces temps-là. Mais en tout cas, qu'ils n'hésitent pas à venir sur ces temps-là. Et c'est moi qui les tiens tout le temps. Donc, vous tomberez sur moi. Et si vous avez besoin de discuter, il n'y a pas de souci, je suis là pour discuter.
Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.